Nous sommes au chapitre 4 sur la luxure. Alors, dans ce domaine, il est question de cette grande puissance de vie que le Seigneur a déposée en nous et qui nous rend capables et même missionnés pour créer avec lui. Cette puissance de vie est si grande et si profondément gravée en nous que toutes les défaillances dans ces expressions peuvent causer des vraies blessures et des malaises tout aussi profonds. Lorsque nous le regardons à la lumière de ce mystère de vie, l'expression de la sexualité n'est que beauté et un témoignage de la sainteté de Dieu. Mais du coup, les difficultés, les épreuves, voire les attaques du diable, sont d'autant plus basses et avilissantes dans ce domaine. Cela ne doit jamais nous décourager de regarder vers le haut, vers le Seigneur. C'est dans la vie intime de la Trinité, communion d'amour infiniment féconde, que se trouve la raison d'être de notre disposition à l'union et à la fécondité conjugale. Dans le chapitre, il y a une bonne explication sur le sens de la chasteté, une chasteté qui vaut pour tous les chrétiens, quel que soit leur état de vie. Dans le mariage, la chasteté dans le don de soi mutuel est un chemin à parcourir ensemble, un chemin qui doit se clarifier dans une ouverture de cœur dès le temps des fiançailles avant le mariage, et qui devrait continuer tout au long de la vie. Pour ceux qui sont concernés, j'espère que l'étude de ce chapitre vous aura donné des pistes de réflexion pour une plus profonde connaissance de soi et de l'autre. L'amour grandit lorsque l'on se rend capable d'accueillir l'autre jusque dans ses blessures, dans ses faiblesses parfois. Là où le diable trouve des occasions de nous faire déraper, la charité trouve un terrain d'exercice pour le soutien mutuel, pour l'ouverture de cœur qui rend l'union plus sincère, plus humble et finalement plus vraie. Alors, il y a une petite citation qui m'a frappé au début du chapitre. Mark Twain remarquait: pour l'homme, parmi les plaisirs du monde, les relations sexuelles viennent en premier. Curieusement, il les exclut du paradis. Alors, le temps de ce monde est celui où les choses sont créées dans leur nature. Il y a un aspect de la jouissance sexuelle qui est bien sûr lié uniquement à cette étape de la création. Mais ce n'est pas le tout du plaisir et de la joie. Le plaisir et la joie de l'union ne sont pas liés uniquement à la chair. Ils s'accomplissent au niveau de l'esprit, dans un bonheur qui, justement, sera notre bonheur éternel. Parmi les images qui nous permettent d'illustrer notre foi et qui sont très précieuses, il y a l'image du Christ comme époux de l'Église. La joie de l'union au Christ sous un mode vraiment conjugal, est notre vocation à chacun, à tous. Et elle inclut, d'une manière mystérieuse, ce plaisir, cette extase que nous pouvons connaître, déjà ici-bas, d'une autre manière dans le lien du mariage. D'une manière que nous ne pouvons peut-être pas comprendre, peut-être pressentir au moins, notre être tout entier, jusque dans sa nature corporelle, est appelé à entrer dans cette extase. Telle sera notre condition éternelle. Et pour revenir à la citation de Mark Twain, il y a peut-être un piège dans l'utilisation du mot « ciel » qui suppose quelque chose de vaporeux, de seulement spirituel, qui finalement nous désincarne, alors que notre éternité par la résurrection sera aussi une expérience de chair, bien incarné dans un monde nouveau, le monde de la deuxième création, la nouvelle création. Dieu a vraiment pris la nature de l'homme en Jésus pour montrer que son union à l'humanité passait dans un investissement de tout le corps. Tous les actes, tout ce que Jésus a vécu par amour pour nous est l'expression de son amour conjugal. Lorsque nous le contemplons spécialement dans sa passion, nous pouvons sentir cet engagement de toute sa nature humaine. Et il nous promet que toute notre nature entrera dans un amour extatique, déjà quand il s'unit à nous par l'Eucharistie. L'Eucharistie est un signe, mais elle est plus qu'un signe. Au travers de ce sacrement, le don de sa chair est clairement un appel à ce que notre nature charnelle entre dans la pleine communion avec lui. Il veut faire une seule chair avec nous. À la fin du chapitre, l'auteur nous invite à méditer sur la passion du Christ à cause des impuretés que Jésus a consenti à subir. Je crois que nous devons surtout, dans la passion, sentir l'extrémité de son amour qui engage tout le corps. Un amour tel qu'il canalise vraiment toutes nos capacités vitales. Nous souffrons de nos incohérences, de l'éparpillement de nos énergies, de nos désirs. L'exercice de la chasteté est le chemin de guérison et d'unification de notre personne. C'est très bien expliqué dans le chapitre, justement. Et cette chasteté, elle peut vraiment être inspirée par ce don total du Christ, par sa chasteté dans le don de lui-même. Dans sa parfaite offrande, il n'y a pas de place pour l'incohérence, pour le péché. Dans la célébration de l'Eucharistie, qui renouvelle ce sacrifice du Christ, à chaque fois que j'élève le calice après la consécration, je pense à ces paroles de la lettre aux Hébreux. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. » Jésus s'est donné de manière tout à fait corporelle jusqu'au sang, jusqu'à sa dernière goutte de sang. Cela peut nous inspirer de combattre toutes les tentations qui veulent éparpiller nos énergies vitales pour nous concentrer sur cette chasteté de corps et d'esprit qui seule permettra notre bonheur. Cela ne dépend pas que de nos efforts, mais aussi de la grâce. Et nous devons croire qu'elle nous est donnée, d'autant plus que nous la demandons avec humilité. Le Seigneur nous a voulu pour la joie de cette union avec lui, dans la joie commune et partagée de tout l'univers qu'il veut consacrer. C'est pour cela que Jésus est venu en tant qu'homme. En ces jours où nous allons justement fêter sa nativité, demandons-lui de nous attirer à sa suite sur le chemin du salut. Le Seigneur vient nous sauver. La joie du salut veut intégrer toutes les dimensions de notre aventure humaine. Elle nous est promise et nous la connaîtrons en plénitude, cette joie que le monde ne peut que pressentir et que personne ne pourra jamais nous enlever.